Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 30e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris. Bienvenue notamment à ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat. Le point de départ est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement en confiance comment elles perçoivent les enjeux de telle réalité, avant de faire circuler la parole plus largement entre nous pour un temps d'échange et de débat. Je vous rappelle qu'il est possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées, des 30 soirées précédentes, des 29 soirées précédentes, sur le site internet du Centre CEF, www.centrecef.com. Alors nous avons choisi ce soir de réfléchir ensemble à cette réalité de la vie dans la rue, de ce qu'elle signifie comme précarité, comme exclusion. Chaque année, à l'approche de l'hiver, la situation des personnes vivant dans la rue nous interpelle et nous avons tous en tête, je crois, telle ou telle personne que nous croisons, que nous rencontrons régulièrement et qui vit dans la rue. Et cela est pour nous source de questionnement comme chrétiens. Cette réalité interpelle notre société aussi sur sa détermination à voir la réalité en face sans précisément détourner son regard. Alors quel constat peut-on faire aujourd'hui de cette réalité? Quel regard porte la société sur les personnes vivant dans la rue? Quelles politiques sociales sont mises en œuvre? Mais aussi, quelle présence chrétienne? Y a-t-il finalement une manière chrétienne d'envisager cet enjeu et de se rendre présent aux personnes qui vivent cette situation. Pour nous aider à avancer dans notre réflexion, à mieux la connaître, à réfléchir en chrétien, je suis heureux d'accueillir nos invités. À ma gauche, Jean-Guilhem Xéry, qui est médecin hospitalier en région parisienne. Jean-Guilhem, tu es depuis longtemps engagé dans le milieu associatif, et notamment en 1995, je crois, tu as rejoint l'association parisienne chrétienne Aux Captifs la Libération, qui rencontre et accompagne les personnes de la rue. C'est, je crois, le cardinal Lustiger qui t'a demandé d'assurer la présidence de cette association en 2005, à la mort de son fondateur, le père Patrick Giros. Et depuis lors, eh bien, tu as mis, et beaucoup ici le savent, beaucoup d'énergie dans ce service, développant l'association. Membre, je crois, du Comité national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, tu as publié deux ouvrages dans lesquels tu expliques ton engagement et tes réflexions sur, je dirais, l'importance de prendre soin de l'homme. D'abord, cet ouvrage d'entretien avec Pierre-Olivier Boiton, à la rencontre des personnes de la rue, qui est paru en 2007 aux éditions Nouvelle Cité, et plus récemment, Le soin dans tous ses états, qui est paru chez DDB en 2011. Je crois que tu achèves bientôt ta responsabilité à la présidence de cette association Captive la Libération. C'est une étape importante pour toi, c'est une période qui s'achève, d'autres engagements t'attendent. Tu as rejoint l'ANAP. L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé. Faut le deviner. Là aussi, je crois que le travail et les enjeux ne manquent pas, bien évidemment. En tout cas, merci d'être avec nous, Jean-Guilhem, ce soir. Merci aussi, Daniel Maciel, diacre du diocèse de Lille. Vous êtes depuis longtemps également engagé dans la lutte contre la précarité et l'exclusion, et vous connaissez bien cette réalité des hommes et des femmes qui vivent dans la rue, notamment, et vous aurez sûrement l'occasion d'en parler, grâce à votre engagement dans la communauté Magdala, communauté d'église implantée à Lille et dans la région lilloise, et qui a pour objectif de partager la vie et la foi de personnes très pauvres. Vous êtes également, je crois, membre et fondateur du collectif Mémoire Fraternité, qui depuis des années œuvre pour que les personnes sans ressources et sans famille qui décèdent puissent avoir droit à un enterrement et une sépulture digne. Actuellement, votre énergie, votre temps sont beaucoup mobilisés par le projet Diaconia 2013. Diaconia 2013, je suis sûr que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais au cas où, je me permets de le redire, c'est une démarche lancée par la Conférence des évêques de France, soutenue, portée par une cinquantaine de mouvements et services d'église, pour permettre que chaque chrétien prenne davantage conscience que la diaconie, le service du frère, est bien au centre de l'expérience chrétienne et n'est pas réservé seulement à tel ou tel service ou organisme d'église. Et cette démarche connaîtra son aboutissement en mai 2013 par un grand rassemblement à Lourdes. Alors, malgré un emploi du temps bien chargé, et notamment toute une après-midi de réunion, je crois, pour préparer un peu cela, justement, merci d'être avec nous ce soir et de nous aider à réfléchir ensemble. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Guilhem, comme nous en avons l'habitude, 20 minutes environ de parole chacun, avant de prendre le temps du débat tous ensemble.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci François de cette invitation et de cette présentation. J'ai une voix un petit peu enrouée, comme vous pouvez l'entendre, par avance de m'en excuser. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, pour échanger autour de ces questions des politiques publiques, politiques sociales et surtout du regard que la société, nous-mêmes et notamment les médias portons sur les personnes de la rue. Et je suis d'autant plus heureux d'être à la même table que Daniel Maciel ce soir de l'association Magdala, parce que Magdala et les captifs sont des associations très proches, j'allais dire cousines, pour ne pas dire frères et sœurs, et puis pour remercier aussi publiquement Magdala et notamment Daniel, puisque les captifs ont développé la maison Valgiros, un centre d'hébergement un peu particulier, il y a un peu plus d'un an, et que Magdala, qui a beaucoup plus d'expérience que nous dans le domaine, nous a apporté des précieux conseils. J'en profite pour le dire, parce que c'est une forme de collaboration et de partenariat entre associations dont on parle beaucoup. Donc les deux points que... En échangeant avec François pour préparer cette soirée, nous ont semblé peut-être intéressants. Le premier point, c'est quel regard la société porte sur les personnes de la rue, et puis le deuxième, peut-être quelques points de réflexion sur les politiques publiques, politiques sociales. Alors, ce ne sont que quelques points de réflexion. Et puis pourquoi ? Parce que la baisse des températures, que chacun de nous a sûrement commencé déjà à éprouver, nous fait entrer, bien sûr, dans l'hiver, mais surtout dans la saison médiatique, dans la saison médiatique de traitement des questions d'exclusion. On sait bien que pour les journalistes, et s'il y en a dans la salle qui n'en prennent pas ombrage, un certain nombre de leurs confrères eux-mêmes reconnaissent, questions d'exclusion dans les médias existent quand même sur une période assez déterminée et limitée dans le temps. On y rentre. D'où, je crois, la nécessité peut-être de poser quelques repères, en tout cas partager quelques réflexions, pour essayer de trouver une distance juste qui fasse qu'on puisse s'approprier ce qui nous est dit et en même temps sans être un petit peu otage de la dimension émotionnelle. Alors aujourd'hui, nos vies tournent, on va dire, autour de quatre écrans principalement. Les écrans de télé, les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone, les écrans de cinéma. On est dans une société, on le sait, d'écran, une société d'images. Et ces images, elles tentent de nous dire, plus ou moins sincèrement, mais faisons le pari que sincèrement et loyalement, elles tentent de nous dire, de montrer des réalités. Mais ne soyons pas dupes, des images, ça crée aussi une réalité, ça crée des représentations dans l'esprit de ceux qui regardent et écoutent, je dirais, ces images et ces textes. Alors, c'est pas nouveau que la précarité, l'exclusion sociale soit représentée sur ces écrans. Quand on prend un petit peu de recul historique, les artistes de tout temps, et ne serait-ce qu'au 19e ou 20e, ont eux-mêmes représenté la précarité. Mais essentiellement, au 19e, ça a été beaucoup, évidemment, la peinture. Et là, on voit qu'on était dans des représentations assez diverses. C'était souvent des défilés de gueux, c'était les mots qu'on employait à l'époque, des enfants qui dorment les uns sur les autres, des ouvriers qui sortent, qui sont dans des états absolument lamentables, qui sortent de la mine ou sortent de l'usine. Et souvent, toutes ces représentations de peinture sont montrées sans aucune pudeur. Et c'est la souffrance qui est essentiellement exhibée et représentée. Ça, c'était pour la peinture. Et dans la littérature, le pauvre, là aussi, au XIXe siècle, est essentiellement représenté comme un révélateur, comme quelqu'un une personne qui va révéler quelque chose de la société. Et en l'occurrence, on va le représenter en décalage avec les autres. Et puis, comme quelqu'un qui va révéler les désordres de la société. Et généralement, qu'est-ce qu'il révèle dans la littérature vers le XIXe siècle, ces personnes pauvres? C'est surtout pour accuser les personnes possédantes. Ces pauvres, dans la littérature, vont souvent mettre en avant l'immoralité ou bien la vacuité de la vie, en gros des bons bourgeois, en gros des personnes installées et privilégiées. C'est bien que, et dans le théâtre, là aussi, il y a différentes figurations des personnes pauvres. Ce sont souvent soit des artistes, soit des gentils fous. Non pas des fous dangereux, mais souvent des gentils fous. Tout ça pour dire que la représentation, finalement, des personnes de la rue, pour faire court, des pauvres, ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle a quand même quelques caractéristiques. Ce sont souvent des vagabonds romantiques, parfois alternatifs, des jeunes déviants, ou bien des malchanceux qui, bien sûr, peuvent être, en tout cas, c'est ce que nous disent les sondages, n'importe qui d'entre nous. Il me semble que l'on peut identifier en tout cas 5 modes aujourd'hui principaux de représentation des plus pauvres. D'abord, on peut aller sur le mode, ce que l'on constate en tout cas, c'est le mode un petit peu de l'idéalisation. C'est-à-dire que là, le pauvre, il est finalement vu un peu comme un héros de la liberté, quelqu'un qui est en révolte contre les dysfonctionnements de la société et quelqu'un justement qui sera en quelque sorte une espèce de révolutionnaire. Donc là, on est un petit peu dans la représentation de l'idéalisation. Il y a une représentation qui est beaucoup plus répandue, qui est celle de la victimisation. C'est-à-dire que là, le sans-abri, le SDF, l'exclu, c'est celui qui va subir passivement, sans plus rien y pouvoir à un moment donné, les abus d'une société qui le broie, d'une société qui le détruit. Ça, c'est quand même la représentation dominante. Et puis, il y a aussi une autre représentation qui est la condamnation. La condamnation, c'est que finalement, personne qui est dans la rue, quelque part, elle paye. Elle paye ses errements, elle paye sa paresse, elle paye ses échecs, elle paye son alcoolisme, elle paye son dévoiement. Donc là, on est sur des représentations qui sont plutôt de l'ordre de la condamnation. Il y a une autre représentation qui est celle de la chosification. La chosification, et là ça rejoint directement le monde des médias, c'est-à-dire que l'exclu, le pauvre, là il devient un objet d'étude, un objet de sondage, un objet d'image, complètement désincarné, chose très désincarnée. Et puis, dernière représentation courante dans notre société, c'est la, pardonnez-moi du néologisme, la médico-socialisation. Mais évidemment, ce terme est choisi pour montrer que c'est un peu du jargon, volontairement. C'est-à-dire que là, il s'agit de dire que la personne de la rue, le pauvre, le précaire, l'exclu, finalement, il s'agit d'une personne qui est atteinte de troubles essentiellement médico-sociaux, et donc, en gros, il faut le refiler à des spécialistes, essentiellement des thérapeutes et des travailleurs sociaux. Donc là, ce n'est plus un problème sociétal, c'est un problème, en tout cas, que l'on va confier à des spécialistes. Donc, grosso modo, cette représentation de l'idéalisation, le révolutionnaire, héros, on le trouve plutôt dans la littérature. La victimisation et la chosification, ça c'est vraiment ce qui envahit l'espace public, c'est ce qu'on trouve plutôt dans le monde médiatique, mais aussi dans le monde associatif, dans le monde des associations. On va très vite sur la logique de victimisation des personnes précaires. La condamnation, c'est ce qu'on l'entend, et de plus en plus, vu le climat politique actuel, cette condamnation, on l'entend quand même beaucoup dans l'espace politique. Et puis la médico-socialisation, eh bien évidemment, on la trouve beaucoup dans l'espace scientifique, hein, évidemment, dans l'espace des chercheurs. Et ça, ce sont des représentations. Maintenant, si on va un petit peu plus dans la chair, ça c'est un peu, on va dire, dans la tête, quoi. Mais si on va un peu plus dans la chair et qu'on s'intéresse aux sentiments qui dominent dans nos regards, hein, et qu'est-ce qui nous anime à propos de ces personnes? Il me semble qu'il y a 2 sentiments qui dominent. Le premier sentiment, c'est le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand on est confronté à des personnes en situation de difficulté, de précarité, en fait, à qui la faute? À qui la faute de sa situation? À qui la faute de sa précarité? À qui la faute de son exclusion? Et clairement, parce que la misère, le dénuement, la précarité, ça génère de la culpabilité chez tout le monde. Le manque, ça génère de la culpabilité. Et dans notre société, grosso modo, comment est-ce qu'on résout cette question de la culpabilité? Pour ceux qui ont fait un peu d'analyse transactionnelle, même basique comme moi, basique, mais voilà, il y a cette logique de sauveur-victime. Les pouvoirs publics sont forcément les responsables, les plus pauvres sont forcément des victimes, et les associatifs sont forcément tous des sauveurs. Sentez bien que, grosso modo, on est quand même sur ce fonctionnement. Les pouvoirs publics, ils font jamais ce qu'il faut. Personnes de la rue, elles font le max, mais vraiment, elles ne peuvent pas. C'est que des pauvres victimes. Et puis les associatifs, et je peux le dire en tant que président d'association, c'est facile, c'est forcément des petits saints qui font tous bien, et donc il ne faut surtout pas s'interroger. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est une caricature, mais sentez bien que c'est un petit peu ça quand même qui domine comme représentation. Premier sentiment, la culpabilité. Deuxième sentiment, c'est un petit peu un sentiment d'ambivalence. Je veux dire par là que le pauvre, le précaire, l'exclu, la personne fragile, voilà, c'est une personne à la fois qui va générer des sentiments, on va le repousser, et en même temps qui va fasciner à la fois. À la fois repoussant et fascinant. À la fois notre regard s'en détourne, et à la fois on est quand même attiré par ce qui se passe. Et on le voit bien quand on passe, quand on est par exemple dans le métro, etc. On va détourner le regard, et en même temps on va regarder du coin de l'œil ce qui se passe, quoi. Ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, etc. Comment il bouge. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'à la fois cette personne pauvre, elle est complètement différente de nous, et en même temps, elle est complètement semblable à nous. C'est un autre moi-même, et en même temps, elle n'a rien à voir avec moi-même. Et c'est là où il y a cette ambivalence chez la personne fragile, la personne pauvre. Et dans ce sens, en fait, la personne pauvre représente quelque chose de dérangeant pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous interroge sur notre nature profonde, sur notre nature, notre humanité commune profonde. Et évidemment, pourquoi ce détour ? Parce que cette culpabilité, cette ambivalence des sentiments qui nous traversent tous, qui nous habitent tous, évidemment, ça n'est pas sans effet sur la façon dont on produit des images. Et l'image, finalement, que l'on va voir, l'image qui est produite, elle est comme notre regard. Ça va être à la fois accusateur et à la fois très ambivalent. Si bien que, dans les représentations des personnes pauvres, on aura à la fois de la contrition, le pauvre, on aura de l'identification. Ça, c'est les sondages, vous savez, qu'on nous sort deux fois par an sur le où on demande à chacun des Français est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez terminer dans la rue. Et à chaque fois, les journalistes brandissent le résultat très fier. Ah, ben, 90% des Français sont convaincus qu'eux aussi peuvent se trouver dans la rue. Voilà. Donc là, on est dans l'identification. Mais aussi la dénonciation. Voilà. Mais est-ce que ceux qui sont au chômage, est-ce qu'ils cherchent vraiment du boulot? Et puis la mise à l'écart. D'où la question. Mais finalement, d'où viennent toutes ces images que voilà, les télés, Internet, etc. nous renvoient ? Et là, il me semble que dans le domaine de la précarité, l'image ne vient pas d'abord, finalement, des personnes de la rue elles-mêmes, mais elle vient d'abord des personnes qui les produisent, ces images, aussi paradoxales que ça puisse paraître. C'était déjà le cas des artistes du 19e que j'évoquais tout à l'heure, certains comme Bruegel étaient davantage dans la dénonciation, Van Gogh était plutôt dans la pitié, d'autres étaient sur la honte, mais ça venait finalement essentiellement des personnes qui produisaient. Et aujourd'hui, la production d'images, on le sait, elle est numérique, elle est analogique, elle est mobile, réelle, virtuelle, etc. Mais finalement, est-ce qu'elle est produite en partant de la réalité de ce que vivent ces personnes, ou bien selon les attentes supposées du public, de par ceux qui produisent ces images. Et vous doutez bien que dans la formulation de ma question, vous imaginez déjà la réponse que moi j'apporte à cette question. C'est-à-dire que les images, elles traduisent d'abord les représentations de ceux qui filment, de ceux qui commentent, de ceux qui font les reportages. Alors, finalement, à quoi ça sert ? Est-ce qu'il faut effectivement des reportages ? Est-ce qu'il faut des images ? Est-ce qu'il faut finalement une couverture médiatique ? Ben, je dirais que l'image, du coup, pour ça, à quoi ça sert ? Il me semble que ça sert à dévoiler une réalité. Ça sert à inciter peut-être à l'action politique, à l'action individuelle. Ça a aussi une vertu de révolte au bon sens du terme. Ça a aussi comme fonction de toucher, de peut-être mobiliser, de susciter un engagement, de réveiller des consciences. Donc elle n'est évidemment nécessaire, mais elle est surtout indispensable. Elle est même salutaire à une vie démocratique, une vie sociale. Mais une fois qu'on a dit ça, qui est, je dirais, l'argumentaire justificatif de base, élémentaire. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et en tant que, pour le coup, président d'association, dire, est-ce que les images qu'on nous sert en permanence et en l'occurrence pendant l'hiver, est-ce qu'elles contribuent à réduire l'exclusion? En tout cas, moi, en tant qu'associatif, en tant que citoyen, en tant que chrétien, pour moi, c'est la seule question qui vaille. Parce que simplement dire faut des images parce que c'est la vie démocratique, on entend ça à peu près tout le temps et sur tous les sujets. Mais est-ce que ça contribue véritablement à lutter contre l'exclusion? Voilà. On sait que les images qui dominent aujourd'hui sont celles de la télé. Quelques chiffres que chacun sait. Tous les soirs à 20h, il y a plus de minimum, les mauvais soirs, 20 millions de personnes qui regardent le JT de 20h. Donc forcément, l'impact, il est essentiellement là. Et ces images, évidemment, elles informent. C'est leur fonction officielle, mais on sent tous qu'elles sont quand même superficielles, c'est-à-dire qu'elles ne rendent pas compte de l'épaisseur humaine, qu'elles sont souvent sans nuance, c'est-à-dire qu'elles sont manichéennes. Il y a le bon, le méchant, celui qui est cloué au pilori et celui qui est le gentil. Elles sont saisonnières, la logique de marronnier, et elles sont évidemment davantage choisies en fonction de l'audience qu'elles produiront que de la réalité vécue par les personnes. Si bien que dans ces images, en tout cas pour l'immense majorité, on va y trouver, on va y sentir, on va y goûter à de l'horreur de vivre, à de la répugnance, à de la honte, de la peur, de l'animalité, assez souvent. On aime bien dans les images. Et le but, c'est quand même, en tout cas le but, je ne sais pas, mais le résultat, c'est quand on est spectateur, d'être souvent renvoyé à un sentiment d'impuissance et d'absurdité. Voilà. C'est souvent ça, finalement, qui nous habite après. Mais qu'est-ce que j'y peux? Mais ça n'a pas de sens. Et ces politiques qui font rien. Et c'est quand même dingue avec tout le fric qu'on met là-dedans qu'on en soit toujours là. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et généralement, c'est je peux rien faire. Donc impuissance et absurdité devant la violence de ces images telles qu'elles nous sont données, telles qu'elles s'abattent, j'allais dire, sur nous. Si bien que le caractère dominant de ces images, je dis bien dominant parce qu'il y en a d'autres qui travaillent autrement et probablement mieux, mais quand même c'est le caractère dominant, amène à s'interroger. Est-ce que ces images donc participent à lutter contre l'exclusion? On sait bien qu'il y a des paroles et des regards qui peuvent blesser, voire tuer. Est-ce qu'il n'y a pas de la même façon des images sur les personnes précaires qui, là aussi, contribuent à les blesser ou à les tuer? Et ce qui est en jeu, c'est la présentation qui est toujours sur le mode du manque, sur le mode de la fatalité, sur le mode de l'impuissance, et qui montre toujours des personnes qui n'ont rien à donner et qui sont toujours en situation de déchéance. Évidemment, en montrant toujours que ces personnes n'ont rien à donner et qu'elles sont en situation de déchéance et que c'est la fatalité qui s'abat sur eux, là, on donne une représentation absolument dramatique, calamiteuse et criminelle pour ces personnes elles-mêmes. Parce qu'à force de montrer ça, elles s'identifient à ça. Or, on a l'expérience au captif, mais je sais aussi à Magdala que ces personnes ont des choses à donner et elles ne sont pas que, justement, identifiées à leurs échecs. Donc finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on dit de la réalité de l'identité de ces personnes? Pour une grande part, elles continuent de nous échapper, en réalité. Et l'enjeu des images est de savoir de quoi elles sont l'image. Est-ce qu'elles sont l'image de ceux qui vivent la précarité ou bien de ceux qui en ont peur? À savoir les inclus, entre guillemets les inclus, hein, à savoir ceux qui filment et qui regardent. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit, dans toutes ces images qu'on nous montre, de façon majoritaire, d'images qui sont fidèles aux personnes de la rue? Ou bien est-ce qu'il s'agit de projection de nos représentations habituelles? Comme s'il y avait une espèce de fusion dans ces images entre nos représentations et ces peurs. Et je crois qu'il faut être clairement conscient, c'est que si on continue comme ça, on ne fera qu'entretenir finalement une espèce de double peine, de seconde exclusion. C'est-à-dire que ces personnes sont de fait exclues socialement, et en véhiculant tout le temps ces images, on leur fait vivre une seconde exclusion. Pourquoi? Parce qu'elles ne disent pas ce que sont ces personnes en profondeur. Donc finalement, à quoi peut bien servir toutes ces images? On l'a dit, à dénoncer, faire prendre conscience, au risque donc d'enfermer tous les peuples dans nos représentations. C'est pourquoi on doit collectivement s'interroger sur ces images. Évidemment, les médias, les politiques, les associations, mais aussi les citoyens, c'est-à-dire finalement chacun de nous, avec toujours cette ambivalence du pire et du meilleur, de la logique et de la fin. Il me semble que montrer la misère est une chose, montrer les personnes qui la vivent est autre chose. En tout cas, c'est un autre horizon. C'est un autre horizon. Et je veux dire que finalement, on s'est interrogé sur l'image, à quoi ça sert. On voit bien que c'était essentiellement tourné vers ceux qui produisaient ou qui regardaient. Et j'ai envie d'inverser la question et de dire finalement, pour les plus pauvres, Pour ceux qui sont dans la rue, qui sont dans la fragilité, dans la précarité, finalement, ces images, ça leur sert à quoi? Et la réponse n'est pas toujours aussi évidente. Et là, finalement, il y a une phrase qui me vient en posant cette question, à partir de l'expérience des captifs et d'autres associations, c'est que une personne de la rue, une personne fragile, ne demandera jamais à être représentée. Par contre, elle demandera toujours à être regardée. Elle ne demandera jamais à être représentée, mais toujours à être regardée. Regardée avec tout ce que ça représente, de profondeur, de désir aussi de traverser un petit peu ses ombres et ses lumières, ses mystères, son épaisseur. C'est bien qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être alors des images qui servent aux plus pauvres, aux personnes précaires? Je vais citer un peu en vrac quelques caractéristiques comme ça de ce que pourraient être ces images. D'abord, une image qui interroge chacun personnellement sans appuyer sur la peur ou sur la culpabilité, mais plutôt sur la raison et sur la responsabilité. Une image peut-être qui aide aussi à repérer ce qui, dans nos vies individuelles, familiales, professionnelles, produit déjà de l'exclusion. En quoi on est concerné par ce qui se passe de l'autre côté de l'écran ? Il ne s'agit pas justement de voir ça sous l'angle de la culpabilité, mais au contraire, de la raison, de l'intelligence et de la responsabilité. Qu'est-ce qui, moi, dans ma vie, dans mon petit périmètre de vie, peut générer de l'exclusion ? Une image aussi qui rappelle que la solidarité ne peut pas être infiniment déléguée à des spécialistes, que sont les associations ou les pouvoirs publics. Une image qui montre qu'il existe un enjeu de société dans le processus d'exclusion. Une image qui casse les fantasmes, ou en tout cas au moins qui cesse de les alimenter. Une image qui dira non pas tant ce dont manquent les plus pauvres, mais ce que sont ces personnes qui, là, traversent un moment de précarité dans leur vie. Une image qui acceptera peut-être de constater qu'elle n'est pas toujours adaptée parce qu'elle va montrer une complexité, la complexité de ces problématiques et de ces vies. Une image qui sache suggérer que la dignité est sous condition de regard et pas sous condition de ressources. Et ça, on voit quand même dans beaucoup d'images que c'est loin d'être le cas. Une image aussi qui montre que les personnes plus pauvres sont aussi capables d'amitié, de générosité, de joie, d'expression et aussi plus profondément de dons. Des images qui fassent sentir que derrière le masque de l'exclusion, il y a une personne qui porte une histoire. Une histoire, c'est donc une vie avec ses ombres et ses lumières. Une image qui indique que cette personne, quel que soit son état aujourd'hui, tel qu'il nous est montré, une personne qui a joué, qui a aimé, qui a embrassé, qui le plus souvent a donné la vie, qui a pleuré, que son corps un jour a été souple et jeune, en tout cas plus souple et plus jeune, et moins abîmé qu'on ne le voit aujourd'hui. Une image qui montre que dans sa mémoire il y a un espoir et que son cœur attend qu'on l'aide à espérer. Et toute chose que des images peuvent effectivement montrer, je le crois, mais sans rien lâcher sur la réalité que vivent ces personnes. Je terminerai en citant Bernanos. Il disait, une phrase qui me paraît très juste à cet égard, il disait que l'homme a les tripes sensibles et le cœur dur. Les tripes sensibles et le cœur dur. Et il me semble que, voilà, une bonne image que pourraient produire et que peuvent produire les médias, c'est peut-être une image qui sait toucher les tripes, mais surtout qui sait adoucir les cœurs. Ça, c'était quelques réflexions que je voulais vous partager sur la présentation aujourd'hui que nous pouvons avoir. Et puis, le deuxième point, mais du coup, je serai très rapide parce que je pense que j'ai dépassé l'heure. Donc, ça sera très rapide, c'est sur les politiques publiques, politiques sociales. Donc, vous imaginez très rapidement sur une question comme ça, ça sera n'importe quoi. Donc je vais vraiment très peu en dire, si ce n'est que si c'est pour avoir finalement un éclairage, un peu une évaluation technique des politiques publiques, je vous renvoie un rapport synthétique très intéressant qui est disponible sur le site du Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion, qui a fait donc une conférence de presse hier ou avant-hier et mis en ligne justement son évaluation des politiques publiques. Donc c'est très synthétique, c'est du français au sens ça se comprend même quand on n'est pas un spécialiste. Moi, ma remarque, ça sera simplement de dire que il y a deux choses qui me gênent dans les politiques publiques. C'est que, à mon sens, on investit de façon excessive, justement, le pouvoir des politiques publiques dans la lutte contre les précarités. Et une phrase m'a beaucoup marqué, c'est au Captif, on avait organisé un colloque, on avait invité l'abbé Pierre. C'était quelques mois avant sa mort. Et il avait dit, donc il y a un parterre d'associations, etc., tous plus investis les unes que les autres dans la lutte contre l'exclusion. Il avait dit, moi, le bilan que je fais de toute ma vie d'engagement, c'est de dire que plus ça ira et plus il faudra compter sur vous et pas sur les politiques. C'était sa formulation. Personnellement, je ne prendrai pas ces mots-là, mais en tout cas, cette idée que probablement, est-ce qu'on investit beaucoup trop les politiques dans leur capacité à peu près régler des problèmes qui sont... qui engage quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs, pour ne pas dire tous les acteurs de la société. La deuxième remarque, c'est qu'il y a eu énormément d'avancées, de révolutions. On peut penser au RMI, à la CMU, au RSA, au DALO, enfin au droit au logement, la loi sur le droit au logement opposable, au SIAO, etc. On ne peut pas dire que rien n'est fait, et quand on voit les sommes investies, on ne peut pas dire, en tout cas, moi je ne serais pas de ceux qui disent « Ah, mais on ne fait jamais rien, etc. etc. » Pas du tout. Je pense, et c'est ça qui me gêne, que on en reste malgré tout à des évolutions techniques qui sont absolument nécessaires et indispensables. Mais en tout cas, il me paraît difficile de dire on va vraiment lutter contre la précarité sociale si notamment on n'envisage pas de réfléchir autour de la précarité familiale. Je veux dire que je connais assez peu, c'est un euphémisme, de personnes qui sont dans la rue ou qui sont dans la prostitution et qui n'ont pas traversé, avec les fragilités propres qui sont les leurs, évidemment, il n'y a rien d'automatique, mais un environnement de précarité familiale. C'est vrai dans l'enfance, mais c'est vrai aussi, on le voit, et c'est ce qui est très préoccupant dans la crise d'aujourd'hui, il y a environ aujourd'hui en France 14% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, en gros avec moins de 800 euros par mois, grosso modo, 14%, et on sait bien que, il y a de nombreux ménages, donc souvent des femmes seules avec enfants, qui sont vraiment au seuil. Et je crois qu'un axe vraiment majeur, c'est un axe de réflexion et de filet de sécurité autour de la précarité familiale. Merci de votre attention. Je laisse la parole.
Merci. Merci beaucoup de tes propos, Jean-Guillaume. Sur l'évaluation des politiques publiques, quand même en peu de mots, tu as dit quand même des choses très importantes sur lesquelles on aura sûrement l'occasion de revenir dans le débat. Et puis merci de nous avoir rappelé ces représentations et ces sentiments qui traversent et habitent nos sociétés et souvent nous-mêmes et qui n'aident pas à regarder, comme tu l'as bien dit, les personnes, ni donc à réduire l'exclusion. C'est bien un enjeu de conversion du regard dont il s'agit. Ces personnes que nous ne savons pas regarder, ils ont une histoire, tu nous l'as dit, ils veulent aussi nous parler. Daniel Massiel, je crois que l'importance de la parole de ces personnes dans la rue, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Voilà, est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, voilà, c'est bien comme cela. Effectivement, la question de la parole est une question, moi, qui me paraît essentielle. Mais avant d'aborder cela, peut-être continuer sur ce que disait Jean-Guilhem pour faire la transition. Moi, ce qui me frappe quand même beaucoup dans les politiques publiques telles qu'elles sont menées, c'est qu'on est beaucoup dans une relation individualisée et de plus en plus. C'est-à-dire que il y a une personne, et cette personne, on va l'insérer, on va la mettre dans une moulinette qui est censée l'insérer. Et en même temps, moi, de l'expérience que j'ai, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, on a beau les faire passer dans la moulinette, on ne les insère pas. Au sens où on l'imaginerait, c'est-à-dire de façon parfois un peu caricaturale, avoir une voiture, un appartement, un chien, et certaines personnes à la rue disent même une épouse, mais bon, vous voyez. Et ce schéma-là, pour tout un tas de, pour un nombre important de personnes, ça ne marche pas. La question, moi, que je me pose toujours, c'est comment est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de modifier le tissu social aussi, de façon à ce que chacun trouve sa place. On est dans des approches souvent très individuelles, et combien de lieux permettent aux personnes de se rencontrer, de discuter ensemble, de travailler ensemble à trouver des solutions, de construire cela, de se reconstruire un avenir à partir d'une parole personnelle, mais aussi de la parole des autres. Et vous voyez, cette dynamique-là, elle est finalement relativement peu mise en œuvre. Peut-être que nos communautés chrétiennes sont ces lieux-là possibles, des lieux où on va recevoir, on va accueillir, on va parler, on va permettre la parole, et on ne va pas forcément essayer d'aider sur le plan social, vous voyez, parce qu'on n'est pas forcément compétent pour cela, et pour cela, il y a des gens qui le sont, mais avoir comme ça ces lieux où on va se retrouver et réfléchir ensemble. Je pense à quelqu'un qui un jour, quelqu'un qui était à la rue, qui un jour, en venant à Magdala, disait « Ici, on me donne à penser, et c'est pour ça que je viens. » Vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on y fait à Magdala de façon très rapide, hein? On se retrouve pour manger le midi, on est une centaine. L'après-midi, on réfléchit autour d'un thème, soit quelque chose qui a trait à la foi, soit quelque chose qui a trait à la vie de la société. Vous voyez, c'est très, très divers. Et puis, donc, pendant ce temps de réflexion, on va ensemble se partager des choses. Et si vous voulez, dans les images dont Jean-Guilhem parlait à l'instant, une des images qu'on n'a pas suffisamment par rapport à des gens qui sont très pauvres, par rapport à des gens qui sont à la rue, c'est que ce sont des personnes qui ont une vision du monde, qui ont une capacité de penser, qui ont une capacité, enfin, qui ont des projets, qui ont, quand on le leur permet, aussi une capacité de réaction, d'organisation. Et je crois que c'est pas très compliqué à faire, ça. Et je crois que ce serait un grand service à rendre à tous que d'aller dans ce sens-là. Au niveau de, enfin, moi, de ce que je connais un peu mieux, qui est la situation sur l'île, moi, ce que je constate, c'est que on a un certain nombre d'associations qui, progressivement, du fait des commandes publiques, deviennent quasiment indifférenciées dans leurs projets. C'est-à-dire que on vous dit, monsieur un tel, qu'il soit accueilli par l'association A, l'association B ou l'association C, ça ne change rien. Donc, on est dans cette idée que les personnes sont interchangeables, que les lieux d'accueil sont interchangeables, et de fait, quel est l'espace où, ensemble, les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, peuvent se retrouver pour construire quelque chose, pour construire une pensée, pour construire une parole. Alors, on a pas mal travaillé là-dessus et on a mis en place, donc à Lille, déjà il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelle le forum de l'insertion. Le principe du forum de l'insertion, c'est que c'est un lieu où on vient, pas pour régler ses problèmes, mais on vient d'abord pour réfléchir avec d'autres. Viennent dans ce lieu des personnes sans logement, des personnes qui sont au RSA, des travailleurs sociaux et des élus, plus des représentants des institutions. Et si vous voulez, j'ai toujours été surpris que ces forums, finalement, quand on les organise, attirent 200, 300 personnes, ce qui, pour ce genre d'événement, est un nombre important à Lille. Et derrière cela, eh bien, une habitude qui s'est prise progressivement de considérer, du point de vue des travailleurs sociaux, du point de vue des institutions, que les personnes, quand elles sont RMI, quand elles sont à la rue, ce ne sont pas que des problèmes à régler, ce ne sont pas que des difficultés, mais c'est aussi toute une richesse qui peut se construire. Et si vous voulez, ce qui est intéressant dans cela, c'est que au niveau du département du Nord, le Conseil général a décidé que le lieu où se réfléchit l'insertion des personnes, progressivement, devienne un forum de l'insertion. C'est-à-dire ce lieu où on va construire ensemble des éléments d'une politique publique et où on va partir de ce que vivent les personnes pour construire les réponses adaptées avec elles. Je crois que c'est quelque chose qui est une petite révolution. Alors, la loi sur le RSA permet cela, un petit peu, et le Conseil général a été volontariste et est allé un petit peu plus loin. Donc je crois que ça, c'est un élément extrêmement important, et je pense que si on regarde l'autre comme quelqu'un qui a des potentialités, comme quelqu'un qui est porteur de richesses, eh bien, effectivement, on va être dans une attitude où on n'est plus dans une attitude descendante. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui? Comment je vais pouvoir l'aider? Qu'est-ce que je vais lui donner? Mais comment ensemble on va pouvoir se rencontrer? Comment ensemble on va pouvoir partager quelque chose? Comment ensemble on va faire que l'un et l'autre, peut-être, on va réussir à vivre mieux et à trouver le goût de vivre? Parce que je crois que c'est aussi un élément extrêmement important. Moi, de toutes les personnes que j'ai rencontrées et que je rencontre qui sont à la rue, il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est souvent le nombre d'intervenants autour de ces personnes, le nombre de démarches qui ont déjà pu être effectuées, le nombre parfois de logements, relogements, foyers dans lesquels les personnes sont allées, et malgré tout, pour ceux qui sont durablement à la rue, tout ça n'a pas marché, ou en tout cas n'a pas marché comme on aurait souhaité que ça marche. Et toujours cette question, finalement, qu'est-ce qui est en jeu là? Qu'est-ce qui est en jeu? Et moi, l'expérience que j'en ai, hein, c'est que souvent, quand on va au bout de tout cela, dans la rencontre, dans l'échange, ce qui est en jeu, c'est finalement, est-ce que j'ai envie de vivre? Quel sens a ma vie? Est-ce que je vis pour quelqu'un ou pas? Et finalement, on a dans ces situations deux choses. Je pense que la solidarité, c'est quelque chose d'important. La solidarité, pour moi, je le résumerai de la façon suivante, c'est compter les uns sur les autres, pouvoir compter les uns sur les autres. Mais je crois que dans cette relation que l'on va nouer, il y a un élément qui est au moins aussi important, c'est de compter les uns pour les autres. Et tant qu'il n'y a pas ça, eh bien finalement, quel sens a ma vie ? Si je ne compte pour personne, quel sens a la vie de cet homme, cette femme qui est là dehors, s'il ne compte pour personne? Et vous voyez, quand je dis ça, je pense que là aussi, nos communautés chrétiennes, sans être des spécialistes, eh bien, on peut entrer dans cette relation où progressivement, on compte les uns pour les autres, parce que c'est peut-être ça la chose la plus importante dont nous avons besoin. Moi, j'ai besoin de compter pour d'autres, et je suis heureux de savoir que je compte pour un certain nombre de personnes, dont plein d'amis qui sont en difficulté, et je suis heureux de savoir que je compte pour eux. Et vous voyez, ça me paraît être un élément fondamental, accessible à tous. C'est-à-dire que pour crever les écrans dont nous parlait Jean Guilhem de façon très juste, je pense qu'il y a ce lieu de la rencontre. Voilà. Tant qu'on ne s'est pas rencontré, eh bien, il y a des SDF qui sont dans le quartier et qui nous font peur. À partir du moment où on se rencontre, il y a Jean. Jean, il a peut-être des enfants, il a peut-être une compagne. Il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi des réussites. Et il y a toute une vie, il y a des projets. Et peut-être que ce Jean, quand on va se rencontrer de façon plus régulière, eh bien, effectivement, on va arriver à ce moment où on va faire un bout de chemin ensemble, on va devenir un petit peu des compagnons. Et cet accompagnement, qui, dans son sens étymologique, veut dire partager le même pain, peut-être que ça va nous aider à vivre l'un et l'autre. Donc je crois que ça, c'est des choses qui me paraissent, moi, accessibles un peu à tous. J'avais envie de dire deux mots, quand même, de Diaconia 2013. L'ambition de cette démarche, c'est de voir comment est-ce qu'on peut effectivement remettre la question du service du frère, la question de la charité, la question de la diaconie un petit peu au centre de l'Église, au même titre que la liturgie et l'annonce de la parole. Dans cette démarche, la place et la parole des personnes les plus fragiles est essentielle. C'est-à-dire que si c'est pour se retrouver avec toute l'Église de France, actuellement il y a 7 diocèses qui ne sont pas engagés dans le diaconat, on a une centaine de mouvements et services d'Église, enfin, tous les mouvements, les congrégations et autres sont parties prenantes. Vous imaginez bien que si c'est pour faire juste à Lourdes en 2013 une grande kermesse où on vient se raconter tout ce qu'on fait de bien, on aura bien perdu notre temps pendant 2 ans. L'idée, c'est comment on est capable d'entendre cette parole des plus fragiles, comment on est capable aussi de faire un bout de chemin ensemble et, vous voyez, de modifier notre façon d'être les uns avec les autres. Dans cette démarche, effectivement, tout un travail pour faire émerger la parole de ces personnes qui souvent sont comptées pour rien et dont on pense qu'elles n'ont rien à dire. Ça arrive souvent. On se dit, mais qu'est-ce qui peut bien nous avoir à nous raconter ? Et alors, quand on fait cela, j'ai envie de vous citer comme ça quelques phrases de gens que j'ai rencontrés récemment. C'était à Rennes, on avait une rencontre avec des personnes très pauvres. Quelqu'un disait ceci: la parole permet de ne pas être transparent. Permettre à l'autre de prendre la parole, c'est lui permettre de ne pas être transparent. Quelqu'un d'autre disait: on dit qu'on prend la parole, mais en fait, on ne prend pas la parole, on la donne. Si on la prend, c'est comme si l'on prenait quelque chose aux autres. Si on la donne, c'est comme un cadeau. Par exemple, quand on lit la Bible, on donne la parole. Quand on parle, on donne quelque chose de soi. Permettre la parole, c'est permettre à l'autre de donner quelque chose de lui-même. Il y a des personnes qui parfois n'ont rien d'autre à donner que cette parole, ce quelque chose d'elle-même, qu'on peut accueillir, et bien sûr, à partir duquel un échange peut s'engager. Dans les autres choses que je voudrais vous citer, parce qu'on est dans un lieu, je pense, où vous allez comprendre l'impact que ça peut avoir pour nos communautés. Quelqu'un disait: nous, on pourrait nous proposer de faire la prière universelle. Est-ce qu'on a besoin de prières bien écrites ou de prières qui sortent du cœur? Moi, je suis toujours mal quand on lit la prière universelle. Par exemple, j'ai entendu ceci: les exclus de la société sont touchés dans leur dignité, faute de logement, faute de revenus et manquant de tout. Ils ne peuvent ni accueillir ni donner. Proclamer ça à l'Église, c'est affreux. Moi, j'ai trouvé ça affreux parce que ça stigmatise toute une catégorie de population, comme si la pauvreté t'empêchait de donner, alors que mon expérience de la pauvreté, c'est tout le contraire. Je l'ai dit et on m'a répondu qu'on ne pouvait pas changer car c'était mieux écrit. À la fin de cette prière, on disait qu'il fallait réaliser qu'ils sont les premiers dans le cœur de Dieu. Moi, si c'est cela Dieu, ce n'est pas mon Dieu. Alors, des citations comme ça, je crois que j'en ai recueilli quand même quelques dizaines. Tout ça pour terminer là-dessus, et ensuite on engagera le débat. Mais non seulement les personnes les plus pauvres, les personnes qui sont à la rue, les personnes qui font la manche parfois devant nos églises sont capables d'une pensée, d'une parole, ont une vision du monde, mais en plus, pour beaucoup, elles vivent quelque chose d'extrêmement fort au niveau de la foi. Et je crois qu'un des enjeux de Diaconia 2013, c'est de nous permettre d'entendre cette façon d'exprimer la foi que peuvent avoir des personnes très pauvres, parce que quelqu'un, et ça c'était dimanche dernier, me disait, j'aime beaucoup Sainte Bernadette à Lourdes, parce que Marie la regarde comme une personne. Marie la regarde comme une personne et Marie lui fait confiance. Elle lui confie d'aller dire au prêtre de construire ici une église. Et en fait, cette personne me disait, mais je sens que Marie me regarde avec cette même confiance. Et que Marie me demande aussi, parfois, d'aller dire au prêtre, d'annoncer la bonne nouvelle avec nos mots à nous. Alors cette personne, elle disait ça parce qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Place et Paroles des Pauvres et qui, dans cette démarche de diaconia, regroupe des personnes très pauvres, justement, pour ensemble réfléchir comment est-ce que les plus fragiles peuvent trouver leur place dans l'Église, comment la parole des plus pauvres peut nous faire avancer et comment, à travers cette parole, peut-être arriverons-nous à comprendre quelque chose de ce qu'est ce Dieu annoncé par Jésus-Christ.
Merci beaucoup, Daniel. Je crois vraiment, et nous l'avons bien entendu, une interpellation pour nos communautés chrétiennes, pour que vraiment elles puissent être des lieux de véritables rencontres et de solidarité. Compter les uns sur les autres, compter les uns pour les autres. Et il y a là vraiment un chantier qui traverse toute l'Église de France, et je crois que c'était bien important d'entendre aussi tout ce qui se met en place du côté de Diaconat 2013, et ça va nous aider nous aussi à nous mettre en route et à rejoindre aussi cette réflexion. Alors nous allons ouvrir le débat tout de suite pour continuer à réfléchir ensemble, à vous poser des questions et à apporter aussi chacun sa propre pierre. On va, comme d'habitude, prendre deux ou trois interventions, convictions, questions, avant de redonner la parole à Daniel et Jean-Guilhem. Alors, je ne sais pas s'il y a... Voilà, tout au fond. Alors, continuez à lever le doigt pour qu'on... Voilà, merci.
Oui. Alors, il a été dit à un certain moment que certaines personnes avaient fait l'objet de dizaines d'interventions, qu'elles étaient entourées d'un très grand nombre de personnes et que finalement, ça n'avait rien changé. À ce moment-là, je me suis dit, mais la pauvreté, c'est aussi un adverbe, pauvrement. Et qui peut qualifier le verbe « vivre ». Et à ce moment-là, on obtient « vivre pauvrement » et évidemment pendant des années et des années. Et je me demande si l'une des plus grandes difficultés auxquelles on a affaire, c'est justement une certaine stabilité de ces personnes dans le fait de vivre pauvrement. Et ça, c'est vraiment difficile. Deuxièmement, il a été question de... Ah oui, de ce qui nous était très accessible. Et ce qui nous est très accessible, c'est la rencontre. Et évidemment, par association d'idées certainement non prévues, mais enfin, j'y ai pensé. J'ai pensé au mariage, et après avoir pensé au mariage, j'ai pensé à la fidélité. Est-ce que il est pensable que des non-spécialistes puissent être indéfiniment fidèles?
Merci. Alors, on va peut-être continuer à prendre l'une ou l'autre intervention. Voilà, oui, mademoiselle.
Bonsoir. En vous écoutant, je me faisais la réflexion de vous identifier donc les représentations biaisées qu'on a envers ces personnes, notamment à travers les médias. Vous identifiez aussi les relations biaisées qu'on peut avoir avec les personnes exclues. Et je me demandais, est-ce que c'est spécifique à ces personnes ou est-ce que ce n'est pas une accentuation envers ces personnes des difficultés et des biais dans les représentations et dans les relations qu'on a en fait avec les autres. Enfin, je voulais avoir votre avis de spécialiste, de personne engagée sur cette question. Merci.
Merci beaucoup. Une autre intervention peut-être ? Voilà, devant, Blandine.
Je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vécue hier lors d'une rencontre avec un monsieur qui vit dans la rue, qui montre que les besoins des personnes qui vivent dans la rue sont parfois bien différents de ce qu'on imagine et que c'est effectivement l'écoute et la rencontre qui priment. Donc hier, j'ai rencontré un monsieur dans la rue qui avait l'air pas très bien, d'avoir froid, d'avoir faim. Donc je le regarde, puis il me demande, à ma grande surprise, d'aller acheter de l'antimite au supermarché d'à côté. Donc, quand j'ai compris qu'apparemment, il en avait vraiment besoin. Je suis allée au supermarché, je lui ai acheté l'antimite. Et je me suis dit, il a sûrement faim, donc je vais aussi lui acheter un sandwich. Donc, je reviens avec mon antimite et mon sandwich. Et il regarde l'antimite, il dit, mais c'était pas exactement la marque qu'il voulait. Il avait dans une idée, il voulait des pastilles de telle marque parce que dans sa tête, c'était ce qui fonctionnait et pas le reste. Et je lui tends mon sandwich et puis il voulait me le rendre parce qu'en fait, il n'avait pas demandé de sandwich et qu'il n'avait peut-être pas faim à ce moment-là. Et j'ai dû le persuader de le garder pour le manger plus tard quand il aurait faim.
Merci pour ce témoignage. Voilà, parfois la difficulté d'entrer en relation et de se comprendre. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles je crois que nos invités peuvent réagir. Peut-être Jean-Guilhem, autour des représentations, et puis peut-être aussi la question de la fidélité.
Oui, sur la représentation, en fait, dans votre question, il y a ma réponse, enfin la réponse que je ferai. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément quelque chose de spécifique dans ces logiques de chosification, victimisation, idéalisation, parce que finalement c'est des choses que l'on porte en soi et justement que l'on va projeter sur l'autre. Donc en revanche ce qu'il y a de spécifique, c'est le fait que ça se cristallise sur ces personnes et qu'on croit que ce soit justement lié à leur situation, à leur histoire, à leur état, etc., etc., etc. Or, c'est le propre de la représentation, c'est qu'elle vient, de la personne qui émet ces représentations. Hein. Donc, ça dit, en réalité, pas grand-chose de l'autre. Par contre, ça dit beaucoup de soi. C'est ça qui est intéressant aussi à essayer, je dirais, de décrypter, d'analyser, simplement d'en prendre conscience collectivement, mais peut-être aussi personnellement. Hein. Et souvent, quand les représentations sont excessives, ça dit d'autant plus quelque chose qui est important pour soi. Est-ce qu'on est vraiment habité par des logiques, justement, de culpabilité ou d'idéalisation ou de chosification de l'autre, etc. D'où vraiment la nécessité absolue pour briser, justement, le jeu des représentations, d'entrer dans la rencontre, d'entrer dans la relation. Dans une relation de personne à personne, comme le disait et illustrait Daniel, dans une relation de cœur à cœur. Ce sera une redite par rapport à ce qu'a dit Daniel, mais enfin, pour moi, ça résonnait de façon vraiment profonde. C'est-à-dire, on a tous besoin de savoir dans le cœur de qui on existe. Et en fait, cette question, je dirais finalement, quand on est bien entouré, quand on est bien aimé, enfin en tout cas du mieux possible, etc., cette question, elle devient implicite, c'est-à-dire qu'on ne se la formule plus. Mais quand on est malade, quand son corps se dégrade, quand on perd la raison, quand on se retire petit à petit de la vie, et là, la question, elle revient. C'est-à-dire, dans le cœur de qui j'existe encore ? Voilà. Et ça, c'est ça le sens de la rencontre, c'est ça le sens de la relation. Hein. Et c'est vrai à titre individuel. Donc la rencontre d'un homme, d'une femme qui va rencontrer un autre homme, une autre femme, mais c'est vrai aussi du coup dans les communautés. Et le but, j'allais dire l'horizon, pas le but, pardon, l'horizon, c'est de se dire que si effectivement j'arrive à de nouveau faire à l'autre qui est fragile, qui est dans le doute sur le sens de son existence, sur sa valeur, à lui faire faire l'expérience qu'il existe dans le cœur d'une personne, d'un groupe d'amis, d'une communauté, d'un mouvement, d'une association, peut-être même de l'Église, peut-être même, se dira-t-il, mais peut-être que j'existe vraiment moi aussi dans le cœur de Dieu. Donc la présentation, voilà, elle vise en réalité davantage de celui qui les aimait. Et puis oui, enfin sur la fidélité, alors je ne suis pas sûr de forcément avoir bien compris ce qu'est exprimé monsieur au fond, si c'est le cas, pardonnez-moi. En tout cas, je vais vous dire ce que ça m'évoque. Est-ce qu'on peut être fidèle si on est un non-spécialiste ? C'est une petite histoire vécue et qui me touche beaucoup, comme beaucoup d'histoires de la rue. C'est une personne que les captifs, ceux qui sont captifs la libération, a accompagné pendant pas mal d'années et qui s'en est vraiment, vraiment sorti. Au sens, voilà, il a suivi une formation, il a aujourd'hui un emploi, il a retrouvé un emploi stable, un logement stable, il a renoué les liens avec sa famille. Et cette personne a été dans la rue pendant très très longtemps. Et en fait, on lui dit à un moment donné, mais qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es laissé approcher, tu as accepté finalement l'aide que te proposaient les captifs ? Il a dit, c'est parce que les captifs ont su m'approcher, etc. Bon, bref, voilà, ça c'est très bien. Mais en fait, quand on creusait un petit peu, on s'apercevait quoi ? On s'apercevait que l'essentiel, ça s'était joué avant la rencontre avec les captifs. Les captifs, finalement, ils étaient intervenus dans une terre qui était déjà prête, une terre intérieure, qui était déjà prête, justement, à être cultivée. Et comment son intériorité avait été préparée ? En fait, il disait que plein de fois, pendant de longs mois, il avait songé à la mort sur son trottoir. Et il dit, en fait, il y a une chose qui m'a maintenu en vie. Et cette chose, c'est une personne. Il dit, c'est une petite dame. Il dormait à même le sol sur une place de Paris. Et en fait, il disait, pendant plusieurs mois, c'était quasiment la seule personne où je savais qu'elle pensait à moi. Alors, il dit, cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelait, c'était une petite dame qui faisait son marché, qui allait à la messe. À chaque fois qu'elle allait au marché le matin avec sa petite cagette, là, elle allait aussi à la messe. Elle faisait son tour comme ça, marché-messe, ou bien messe-marché. Elle s'approchait de cet homme, qui était donc à terre, et elle lui disait, vous savez, je vous ai confié à la Vierge Marie, vous inquiétez pas. Et elle repartait. Il racontait que c'est ça qui l'a maintenu en vie. Cette femme ne lui a jamais donné d'argent, ne lui a jamais donné de conseils, n'a jamais dit, tiens, je vais appeler le SAMU social, les captifs, le Secours catholique, le Magdala ou je ne sais pas quoi. Simplement, elle lui a dit, en gros, voilà, je te confie au cœur de Marie. Quoi. Elle a dit, c'est ça le seul fil qui, pendant plusieurs mois, m'a maintenu à la vie. Voilà. Et ça, voilà, enfin, ce que m'évoque votre question sur la fidélité des non-spécialistes. Je ne dis pas qu'il faut tous se promener avec une petite cagette le matin. Mais je pense qu'on sent bien finalement de quoi il peut bien s'agir. Quoi. Effectivement, après les captifs sont arrivés sur ce territoire, j'allais dire, vraiment cette petite dame ne sait sûrement pas qu'elle a sauvé une vie et tout le travail finalement qu'elle avait déjà fait. Donc c'est une forme de fidélité finalement que nous dit cette petite dame.
Daniel.
Oui, moi j'avais envie aussi de réagir là-dessus parce que j'ai trouvé que ce qui était dit sur la comparaison avec le mariage était très très beau. Et je me faisais une réflexion en vous entendant, en me disant, non spécialiste, ça ne veut pas dire tout seul. Parce que je me dis, on peut intervenir en non spécialiste, mais on peut le faire en communauté. Et donc la fidélité, elle peut être aussi une fidélité communautaire. Et on peut aussi imaginer que si on crée des liens en communauté, des personnes vont être intégrées dans cette communauté. Et moi, je pense que les plus pauvres n'entreront pas, les chrétiens très pauvres ou les gens qui sont dehors n'entreront pas dans l'église tout seuls, ils y entreront en communauté. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on a aussi ce souci dans nos communautés de créer ces liens, d'inviter des gens et puis de passer une soirée avec eux et puis petit à petit d'échanger, de créer une histoire commune. Ce sont des choses qui à mon sens, permettent de durer parce qu'on est plusieurs, parce que si moi je ne suis pas là, quelqu'un d'autre sera là dans la durée. Et je redis, pas pour faire de l'aide sociale, de l'aide sociale, vous voyez ce que je veux dire, de l'assistance sociale, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, mais simplement pour créer ce lieu de parole, d'écoute, où on vient, où on partage ce qu'on a vécu, où quand il y a des difficultés, on renvoie vers des spécialistes. Mais moi, je me dis, la fidélité, pour moi, elle passe par aussi une communauté paroissiale, une communauté, ça peut être aussi à différents niveaux, dans un quartier. Et c'est ça qui permet de durer. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce mot fidélité qui a fait tilt, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit, tu sais, quand je mourrai, tu célébreras mes funérailles. Parce que je suis diacre, et donc, voilà. Et en disant ça, c'est cette idée qu'effectivement, ils savent qu'on est engagé, ensemble parce que la rencontre fait qu'on s'engage et savent que ça ira même au-delà de la mort. Et l'importance de tout ce mouvement autour des morts de la rue, autour de l'accompagnement des personnes qui sont décédées indigentes, d'accompagnement des très pauvres, même au-delà de leur mort. Et souvent, quand on discute avec un certain nombre de personnes au niveau des financeurs, moi, j'ai déjà entendu des réflexions, mais ça ne sert à rien. Toute l'énergie que vous mettez une fois que les gens sont morts, de toute façon, ça ne leur servira à rien. Or, en même temps, je pense que pour beaucoup, c'est un peu ce point de fidélité là, à l'horizon, qui fait que chacun sait qu'il a de la valeur et chacun sait que même après sa mort, il aura encore de la valeur, quoi. Donc se compter les uns pour les autres, ça va jusque là.
Merci. On va reprendre une série de questions ou d'interventions, convictions. Oui. Florence.
Oui, sur les politiques publiques et les politiques sociales, je ne suis pas sûre d'avoir compris la première de vos deux réflexions. Je veux bien que vous redisiez un mot dessus. Et peut-être que vous nous expliquiez de quoi est chargée l'instance que vous allez intégrer, le Conseil national de lutte contre l'exclusion. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir retenu la bonne... quel est son rôle ?
Merci. Si, il y avait une question derrière. Oui, levez bien encore la main. Voilà.
Oui, j'aimerais intervenir d'une façon plus pratique. Nous croisons chaque jour dans la rue, de 50 mètres en 50 mètres, des gens qui ne parlent même pas français. Les rumeurs disent même que ce sont des personnes qui sont déposées en Mercedes, que l'on trouve dans certains... centres commerciaux pendant les week-ends, fort riches, que ces femmes qui sont à tendre la main sont battues si elles ne rentrent pas avec quelques sous le soir. Quelle attitude devons-nous avoir devant ces personnes que nous rencontrons ? D'autre part, lorsque nous essayons de rentrer en contact avec ces personnes, elle balbutie quelques mots de français, donc ce que vous dites à juste titre, qui est tout à fait compréhensible, est absolument impossible à mettre en vigueur avec ces gens-là. Quelle est l'attitude aussi que nous devons avoir avec ces gens qui sont avec un enfant qui peut être en bas âge, mais qui peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans, sur les genoux? Il m'est arrivé de passer régulièrement devant ces personnes. Je brise ma baguette et je donne du pain. Mais visiblement, ces gens-là ne souhaitent autre chose. Mais quoi ? Est-ce qu'on doit intervenir aussi ? Que pouvons-nous faire devant cette précarité quotidienne que nous croisons ?
Merci beaucoup pour cette question. Il y a une autre, intervention. Oui, levez bien la main pour que... Voilà.
Je voulais enfin, parler de la responsabilité qu'on peut avoir par rapport à des gens dont on s'occupe. Et bon, c'est aussi une question de fidélité. C'est que moi, je me suis occupée l'année dernière d'une femme dans une autre association et je m'en suis occupée pendant plusieurs mois. Et puis cet été, j'étais pas là. Et puis au mois de septembre, elle répondait pas quand je l'appelais. Et puis j'ai appris la semaine dernière qu'elle s'était jetée dans le canal. Bon, elle a été récupérée, mais en fait, c'est très lourd à vivre. Et c'est vrai que quand on s'occupe de plusieurs personnes, il y a un suivi qu'on a du mal à mener, en fait. Et voilà, enfin, c'est un peu ma question.
Merci, merci Marie. Voilà, je crois qu'il y a déjà un certain nombre de sujets sur lesquels on peut réagir. Les politiques sociales, peut-être pour commencer, Jean-Guilhem.
Alors, je ne sais plus lequel était le premier du deuxième point, les deux idées rapidement que j'avais posées. La première, c'était une question, comment... envisager raisonnablement une lutte contre l'exclusion et la précarité sans envisager la précarité familiale. Et le deuxième élément, et donc là, en tant que ce point étant non pas justement une mesure technique, mais véritablement une réflexion sur un des éléments de fragilisation, voilà, source. Et le deuxième élément, c'était... que peut-être on attend trop des pouvoirs politiques. Et quand je dis ça ne concerne pas ce gouvernement en particulier, évidemment. C'est plus ce que l'on peut, justement, la façon dont on peut investir le pouvoir politique. Et il est non seulement légitime, mais nécessaire de demander des choses, des actions, des décisions, des résultats, des investissements au pouvoir politique. Qu'il soit national, mais aussi au niveau départemental, puisque c'est d'ailleurs beaucoup le niveau départemental qui a un petit peu les manettes au niveau de l'aide sociale. Mais attention, en tout cas, à la tendance de vouloir trop attendre des pouvoirs publics. Pour être très concret et reboucler avec le thème de ce soir, de propos qui étaient un petit peu sur les médias, chacun a probablement encore en mémoire ce drame d'il y a quelques semaines où les médias se faisaient écho d'une femme qui avait accouché dans la rue dans le 14e arrondissement et son bébé était mort dans la rue. Voilà, enfin, no comment sur ce que ça représente et la réalité qu'il y a. En même temps, voilà, j'entends... responsable associatif, peu importe lequel, qui passe à la télé et qui dit « Ah ben voilà, on est dans un pays où le gouvernement laisse mourir des enfants dans la rue. » Personnellement, je ne peux pas m'associer à un tel propos et ça révèle clairement, on considère que cette parole est sincère, et là aussi je fais ce pari, ça révèle cette espèce d'attente pour moi qui est une illusion complète qu'un gouvernement en France... voilà, peut faire ce qu'il veut. Il se trouve qu'en l'occurrence, quand on creuse un petit peu le dossier, cette femme était suivie, rencontrée en maraude, en tournée rue, trois fois par semaine par la Croix-Rouge, et était suivie pour sa maternité de façon tout à fait régulière à la maternité Saint-Vincent-de-Paul. Donc, en plus, ce qui était dit était faux. Mais je veux dire à travers cette anecdote que on a ce réflexe de pas que fait la police, c'est que fait l'État. Or, les problématiques sociales mettent en jeu un nombre d'acteurs absolument inimaginables. Et quand je dis inimaginables, C'est que moi-même, en tant que président d'association, et de fait, par mes responsabilités, il a fallu progressivement, j'essaie de mieux comprendre de quoi il s'agit. Je quitte mes fonctions quand même après 15 ans captif. Je ne suis pas sûr d'avoir encore tout bien compris. Plutôt, je suis même sûr d'avoir pas encore tout compris. Tellement le nombre d'acteurs est important. Rien que sur le logement, c'est les propriétaires privés, c'est les mairies, c'est les sociétés HLM, c'est la région, c'est le département, c'est les politiques nationales. Et il y a tous ces acteurs qui sont là. Et comment on fait pour faire travailler tout ce petit monde? Donc ça pour dire que, à mon sens, on surinvestit, en tout cas on investit de façon excessive et on attend de façon excessive des choses de l'État. L'État, en gros, national, central, il vote des lois et il donne des financements. Mais ensuite, j'allais dire, c'est à nous de faire le boulot, quoi. C'est à nous de faire le boulot. Hein. Et si on n'entre pas, et là je parle en tant qu'associatif, si on entretient en permanence les personnes de la rue, dans leur propre exclusion, comme disait Patrick Giros, le fondateur des captifs, il disait toujours cette expression, enfin il ne disait pas toujours, il disait parfois, ça a beaucoup marqué, il disait attention à ne pas s'exclure avec les exclus. Si les associatifs eux-mêmes, quand ils accompagnent des personnes, ils n'entrent pas en relation, ils n'entrent pas en rencontre, mais finalement, toute la journée, ils disent à personne qu'ils accompagnent, faut dire que, t'as quand même bien raison d'être dans la rue, parce que je veux dire, quand on voit la société, elle t'a fait aucun cadeau, hein, puis alors ta famille, tu comprends, etc. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas la question. Je veux dire que l'État, il peut voter des lois et des financements, que ce soit suffisant ou pas. Il faut qu'aussi les organisations répondent bien, que les personnes qui accompagnent ces personnes, qui soient salariées ou bénévoles, soient vraiment elles-mêmes centrées vraiment sur la rencontre, sur la relation, sur le « je te laisserai pas tomber », même si, a priori, pour l'instant, je vois pas de chemin de réinsertion, mais ce qui m'importe, ça renvoie ce que disait Daniel sur le fait que parfois on les accompagne jusqu'à la mort. Oui, ça a du sens parce que l'horizon, c'est de le mettre sur un chemin de croissance et de vie. C'est pas simplement de le mettre sur un chemin de réinsertion, logement, travail. Parce que sinon, c'est sûr que là, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, l'État, il va donner des lois, des financements, mais qui va vivre la relation? Qui va donner le sens? Qui va être dans la fidélité, l'accompagnement? Qui va vraiment avoir un cœur, une intériorité pour accueillir la parole, la pensée, la vision du monde? Qui va se soucier de la vie spirituelle de ces personnes? C'est pas l'État. C'est pas l'État. Et c'est bien pratique parfois de surinvestir l'État parce que... Voilà. Donc il a sa place à tenir, mais peut-être pas tant qu'on ne le suppose.
Daniel, je ne sais pas sur ce point ou sur peut-être les attitudes face à des situations très concrètes, mais peut-être sur la question des politiques publiques, tu as aussi quelque chose à ajouter.
Bon, moi, sur la situation concrète, là, je laisserai Jean-Guilhem parler pour Paris. Je peux dire des choses sur l'île, mais je ne connais pas bien la situation parisienne. Sur la question de la responsabilité qu'on peut avoir, effectivement, je pense qu'on a une responsabilité, et comme je le disais tout à l'heure, de l'importance quand même de se mettre à plusieurs, de le faire en communauté, de rejoindre bénévolement une association, parce que cette responsabilité, ça veut dire que quand on n'est pas là et qu'on a engagé quelque chose, l'importance que d'autres puissent continuer à suivre. Donc ça, moi, ça me paraît non spécialiste, ça ne veut pas dire tout seul. Et a fortiori, enfin, moi qui ai un petit peu de recul là-dessus, je n'agis jamais seul. Donc si, quand on a un peu d'expérience, on n'agit pas seul, quand on n'est pas spécialiste, a fortiori, ne pas agir seul, ça me paraît être quand même l'élément important. Dire, par rapport à la situation de ces personnes qui, dont on a l'impression comme ça que c'est un business qui rapporte et que des gens sont là sous la contrainte, je crois effectivement que parfois il y a des réseaux qui s'installent, qui sont des réseaux qui ne respectent pas la liberté des gens. Ça, c'est une réalité. Enfin, on sait aussi qu'avec toute cette question de parfois... Il y a des trafics. Enfin, il y a des trafics de personnes, il y a des trafics de personnes sans papier, il y a des réseaux qui permettent aux gens d'arriver en France. Ensuite, il y a des systèmes qui permettent. Ça existe. Effectivement, on ne va pas le nier. Et par rapport à cela, moi, je dirais, il y a deux choses. Il y a d'une part, quand on le peut, c'est prendre le temps, effectivement, pour creuser un petit peu. C'est prendre le temps pour se renseigner. C'est prendre le temps, je parle là de l'individu lambda qui se demande quoi, c'est prendre le temps effectivement pour le coup d'aller d'aller se renseigner auprès d'une association de quartier qui connaît peut-être mieux la situation. Je crois que là, il faut, du coup, les spécialistes, ils sont aussi là pour cela, quoi. Et l'autre, l'autre élément, c'est que derrière ça, ça redit, et je pense que votre exemple le dit bien, combien il n'y a pas un type, il n'y a pas une situation, il y a une multitude, il y a une multitude de situations qui sont différentes les unes des autres. Il y a une très 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 grande complexité, c'est sûr. Après cela, il y a à jongler entre l'approche qu'on peut avoir. Madame ou mademoiselle, vous le disiez tout à l'heure, on a une possibilité de rencontre, eh bien on le vit, et puis on va vivre ça comme un cadeau, et puis des situations où effectivement soi-même on est impuissant. Donc je crois qu'il faut aussi accepter cela. Moi-même, enfin, quand je dis moi-même en tant que entre guillemets spécialiste de la question, je suis souvent démuni, très souvent démuni. Voilà. Je l'accepte aussi comme ça.
Peut-être que Jean-Guilhem aussi, sur ces situations concrètes, tu as des choses à apporter.
Oui, puis peut-être, je n'ai pas complètement répondu à votre question sur l'instance en question que j'évoquais tout à l'heure. Elle s'appelle le CNLE, le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion, qui est donc l'équivalent du comité d'éthique, mais sur les questions en fait, de lutte contre l'exclusion et de précarité. Donc si vous tapez CNLE sur Internet, pour ceux qui ont Internet, il y a énormément de documentation, donc c'est apolitique, hein, enfin au sens c'est apoliticien, voilà, la comparaison avec le comité d'éthique vaut ce qu'elle vaut, mais enfin elle dit un petit peu le positionnement, et donc il y a énormément de documentation sur les problématiques sociales, et donc là en l'occurrence il y a deux jours a sorti un petit peu une analyse du bilan des politiques sociales menées ces cinq dernières années, voilà, donc CNLE. La question, madame, moi je... Personnellement, je suis pas du tout à l'aise pour répondre. Je suis pas à l'aise parce que ce soit comme citoyen ou comme spécialiste, hein, entre guillemets, quelle attitude avoir, je crois que c'était vos mots, hein, je ne sais pas. Voilà, moi je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut... Je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme, c'est-à-dire que pour le coup, essayer de la charité de l'Évangile, ça n'appelle pas à être gentil, quoi. Je ne crois pas que Dieu soit gentil. Je crois que Dieu est bon, et ce qu'il nous demande, c'est de vivre la charité, de vivre un amour qui soit équilibré entre le cœur et l'intelligence. En tout cas, qui appelle et le cœur et l'intelligence, c'est-à-dire aussi sa raison. Donc c'est triple. La phrase que je disais de Bernanos, quoi. Hein. Voilà. Et donc je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme. C'est pas parce que quelqu'un attend de la main que de fait il est pauvre, etc. On sait bien que c'est peut-être le cas, mais peut-être pas le cas. Hein. Donc j'ai envie de dire que finalement, ce que je décrivais dans la logique qui est un peu à l'œuvre dans les médias avec la représentation, je veux dire que là, on est un petit peu aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que là vraiment, il y a une mise en scène et on est convoqué comme passant, je parle, mais même comme association. On est convoqué un peu à un jeu de rôle, à un jeu de personnage, hein, où pour le coup, il y a une accentuation du caractère victimaire, de certaines, surtout les personnes que vous évoquez, en tout cas de ce que j'en saisis, de ce que j'imagine en tout cas, il y a une accentuation du caractère victimaire, et donc une accentuation de la dimension de culpabilité. Et je ne sais pas quelle attitude concrète il faut avoir. En l'occurrence, et ça vraiment, je pense que c'est la liberté de chacun, là aussi, en écoutant son intelligence et son cœur, hein, que la charité, ce n'est pas de l'angélisme ou être gentil, mais que je pense que la première attitude, c'est sortir de ces jeux de rôle dans lesquels on est complètement capturé, quoi. On est capturé. De façon à gagner un peu en liberté et pouvoir effectivement, en toute liberté, en tout cas... La liberté qu'on peut avoir devant de telles sollicitations, c'est quand même de voir effectivement une mère avec un gamin qui a à peine quelques semaines et puis qu'elle le promène comme ça dans le métro, enfin, ou des gens qui ont des moignons, enfin, je veux dire, forcément, même si on se blinde, ça touche, même inconsciemment, hein, ça touche. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience intérieurement qu'on est complètement capturer pour rentrer dans des jeux de rôle et des personnages. Hein. Et donc prendre de la distance avec ça pour librement choisir. Voilà, je donne pas, je parle pas. Et puis voir que dans cette affaire-là, je crois que c'est des situations qui sont tellement extrêmes que ça nous dit que justement la charité, je parle de la charité avec un grand C, hein, la charité auquel l'Évangile nous appelle, a aussi une dimension politique. Et que on a beaucoup insisté sur la dimension interpersonnelle, sur la rencontre, sur la relation, comme le lieu d'exercice de la charité. Mais la charité, elle a aussi une dimension politique, je dis politique au sens noble du terme. Hein. Voilà, et que là, on est vraiment aussi en lien avec des politiques sociales, etc. Et que autant la relation, la rencontre au service de une relation, une rencontre que l'on espère et que l'on travaille pour qu'elle soit réciproque, etc., ne doit pas faire oublier que ça se passe aussi, principe de réalité, dans un contexte, dans une histoire, dans une culture, etc. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas une réponse, je suis bien incapable de vous la donner, mais en tout cas, ce sont pour moi des éléments de repère, et que sur ces questions aussi difficiles, là, clairement, regardez, là, je rejoins complètement Daniel, les associations qui localement font ce travail, notamment, je sais que le Secours catholique travaille beaucoup sur ces questions-là, et a des missions comme Médecins du Monde, mais Secours catholique avec un regard quand même très particulier sur ces questions. Peut-être prendre leur avis, parce que là aussi, en termes culturels, c'est là aussi, on n'imagine pas combien les repères, les représentations sont différentes, et il y a peut-être des choses aussi à apprendre et à piocher.
Là, nous approchons de la fin de notre rencontre. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou dernière intervention pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, peut-être tout au fond, je ne sais pas où, Blandine, voilà. Et il y en a même deux, alors on va avoir les deux, mais brève. Voilà, la première.
S'il vous plaît, quelle relation...
Parlez bien dans le micro.
Quelle proportion y a-t-il entre ceux qui, plus ou moins, sont intégrés à des lieux, à des... regroupements, des associations, et ceux qui sont hors des mailles.
Ceux qui sont intégrés et ceux qui sont hors des rails. Voilà. Des rails. À mailles. Alors, deuxième question.
Voilà. C'est un témoignage que je vous apporte. C'est que j'ai été considérée comme quelqu'un favorisé, dans le milieu favorisé, et actuellement je connais une difficulté passagère. Et alors le regard que les autres me portent, comme si je ne suis plus digne comme avant, et quand je parle de ma situation, donc très franchement pour exposer que je suis en difficulté, que je crois bien passagère, et que je demande de l'aide, il y a des gens qui se permettent de me juger comme incompétente, bon à rien. Il y a même, je croyais qu'il était un ami, il voulait me posséder sexuellement. Donc, c'était très, très surprenant. Si vous voulez, à travers cette expérience, ce que je peux témoigner aujourd'hui devant vous, c'est qu'on a parlé avec des mots spécialistes et encore, on a très souvent parlé donc précarité, tout ça. Je pense que nous sommes tous, nous pourrons être spécialistes en matière de l'exercice de l'amour charitable si on se croit chrétien. Deuxièmement, donc pour moi, le frontière d'être spécialiste, fidélité à telle ou telle attitude, pour moi, il faut bannir. Deuxièmement, la question de précarité, à qui on doit porter secours, à qui on doit donner la priorité pour venir en secours, au secours. Eh bien, pour moi, à mes yeux, dans ma situation à moi, personnelle, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes tous et toutes des êtres précaires. dans notre vie familiale, dans notre lien affectif, mais aussi dans nos moyens matériels. Tout vient de Dieu et ça peut partir à un moment donné. C'est pas nous qui a la possession des choses matérielles ou immatérielles sur cette terre. Alors, soyons plus humbles face à notre condition de vie. Et si on a cette attitude d'humilité nécessaire avant de pouvoir se qualifier spécialiste ou capable de donner aux pauvres ou aux fragiles, eh bien, si on se considérait comme un être autant fragile que l'être en face de moi, on ne va pas être pris en otage de culpabilité, de victimisation, de rôle de victime et je ne sais pas quoi. Donc, pour moi, c'est merci. Le témoignage personnel qui vient de mes tripes, mais aussi par mes efforts de rationalisation, de réflexion sur ma condition de vie d'aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous remercie merci. De m'avoir écouté. Merci.
Daniel.
Oui, je crois que tout le monde l'aura bien compris. Quand Jean-Guilhem et moi-même employons le terme de spécialiste, nous mettons des guillemets parce que je crois que, je parle pour moi, mais je crois que ça traduit aussi ce qu'il porte. Effectivement, on est très démunis, toujours démunis face à la rencontre. Voilà, chaque rencontre, c'est ce moment où effectivement, est-ce qu'on va réussir à se rejoindre? Est-ce qu'on va réussir à petit à petit faire un bout de chemin ensemble? Voilà, moi c'est toujours ma question et j'avoue que dans toutes ces années, ce qui m'a toujours fait le plus mal, c'est parfois qu'il y a des gens où on n'arrive pas à se rencontrer, on n'arrive pas à se rejoindre parce que peut-être on n'est pas suffisamment ceci ou suffisamment cela, on se pose toujours des questions, et parfois parce que la personne en face, elle est tellement abîmée qu'on n'arrive pas. Et ça, moi, c'est ce qui me fait toujours le plus mal. Et je me dis, bon, dans ces situations-là, je suis d'accord que le terme de spécialiste n'est pas bienvenu. Derrière ça, nous mettions juste le fait que, c'est un engagement dans la durée où, effectivement, on a essayé de travailler, de réfléchir, de toujours, tous les jours, de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait faire différemment pour réussir cette rencontre. Voilà, mais c'est sûr que votre témoignage me touche beaucoup et je crois nous touche beaucoup parce qu'il dit quelque chose de très, très profond, c'est-à-dire que quoi qu'on ait vécu, quelle que soit notre histoire, nous avons de la valeur. Et cette valeur-là, parfois, elle ne nous est pas reconnue. Mais en tout cas, aux yeux de Dieu, chaque être a de la valeur, quelle que soit son histoire. Et vous voyez, parfois on dit cette phrase, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais pour moi, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est être capable de permettre à chacun de sentir cela, sentir qu'il a de la valeur et sentir que Dieu l'aime, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses difficultés. Parce que le pire qui arrive parfois, c'est que quand on a plein de galères qui nous tombent dessus, ces galères, elles nous tombent dessus de l'extérieur, c'est la maladie, c'est le chômage, c'est plein de choses. Et le pire, c'est le moment où on finit par intérioriser ça en se disant « Mais en fait, s'il m'arrive tout ça, c'est parce que je suis nul. » Et moi, combien de gens m'ont dit « Mais moi, je suis nul, j'ai tout raté, je suis un bon à rien. » Et derrière ça, l'enjeu de la rencontre, c'est d'être capable de, à un moment donné, de faire un bout de chemin ensemble, comme je le disais tout à l'heure, et puis de permettre à chacun de se rendre compte qu'il a de la valeur, qu'il est quelqu'un qui a une valeur inestimable.
La question sur les proportions et les chiffres, Jean-Guilhem.
Oui, alors, les chiffres des personnes hors maille ou hors rail, je ne sais pas, mais deux chiffres très rapidement, qui sont les chiffres minimums. On considère qu'en France, il y a des personnes SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, le nombre minimum est de 100 000. Sans domicile fixe, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps dans la rue, mais qu'ils n'ont pas de domicile fixe. Donc, ça sera un soir dans la rue, un soir dans un centre d'hébergement d'urgence, un soir dans un hôtel, un soir chez une copine et un soir de nouveau dans la rue. Donc, on estime que c'est minimum 100 000. Donc, vous voyez, ça fait quand même une grosse agglomération quand même. Hein. Deuxième chiffre que j'évoquais tout à l'heure, qui me paraît vraiment important d'avoir à la conscience, c'est 14% d'entre nous qui vivons sous le seuil de pauvreté. Donc 14%, faites le calcul, grosso modo, ça fait 8 millions de personnes qui vivent avec, grosso modo, moins de 850 euros par mois. Et on le voit ces derniers mois, ces 12 derniers mois, le nombre de personnes qui ont recours à des vestiaires ou à des épiceries solidaires explose, et c'est cette frange-là aujourd'hui de la société, même si la crise n'est pas pour l'instant à l'étrée, comme on dit, elle n'est pas dans le monde réel, et elle ne se voit pas forcément quand on regarde les vitrines des magasins et la fréquentation des restaurants, mais il y a toute une frange de la population qui, elle, la crise, elle est dans leur vie réelle, et c'est 8 millions au moins d'entre nous.
Merci beaucoup Jean-Guillaume. Daniel, je crois que nous avons reçu beaucoup ce soir, beaucoup de grains à moudre pour nos réflexions, pour nos pratiques personnelles et communautaires. Et je crois aussi que ça nous rend attentifs au chantier de Diaconia 2013. Donc merci vraiment d'être venu passer ce temps avec nous. Je signale que les ouvrages de Jean-Guillaume Xéry à la rencontre des personnes de la rue et le soin dans tous ses états sont en vente juste au pied de l'estrade. Merci de votre fidélité. Rendez-vous non pas le mardi 2 janvier, le centre Sèvres ne sera pas ouvert et puis on ne sera peut-être pas tout à fait encore réveillé, mais le mardi 10 janvier où nous parlerons, si tout va bien, puisque parfois les thématiques, c'est parfois un peu compliqué d'arriver à les installer complètement. Nous essaierons de revenir sur la situation dans le monde arabe qu'est devenu le printemps arabe, mardi 10 janvier. Merci de votre fidélité et bonne marche vers Noël. Merci.